biển non biển người làm nghề. Thế nơi bạn ngàn dặm nhau cùng đi, nơi đâu yêu thương ta đưa nhau về.
Tình đôi ta mình sẽ xây bằng những ân tình.
Pledge resistance.
What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal, here on CKUT. Peace.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
The following is a previously broadcast program.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça.
Alors, bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un tout nouvel épisode de votre podcast juridique préféré, Touche pas à mes droits, qui vous est présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel, en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel, ainsi que Néolab et bien sûr la ville de Montréal. Donc, on vous retrouve après 7 épisodes en 2020 qu'on avait déjà enregistrés, qui sont sur le site internet de la clinique juridique de Saint-Michel, ainsi que sur Spotify. Vous pouvez aller retrouver les émissions et on traite de profilage racial comme à l'habitude. En 2021, on a du nouveau contenu, de nouveaux invités qui arrivent. Donc, on a vraiment hâte de partager ça avec vous, les auditeurs. Et je suis tellement excitée, je ne me suis même pas présentée. Donc, c'est Oumi ici et je suis aujourd'hui avec mon co-animateur, Ali. Allô, Ali.
Oui, allô, Oumi. Mon nom, c'est Ali. J'ai déjà fait partie du podcast. Ça fait 2-3 émissions déjà. Et aujourd'hui, on a également la chance d'avoir avec nous Jennifer Macaron, députée du Parti libéral de la circonscription de Westmount, et Marc Tanguay, un autre député du Parti libéral de Québec, de la circonscription La Fontaine.
C'est à Rivière-des-Prairies, à côté de mon hood.
Exactement.
On a également Fafa. Donc, Fafa, elle est toujours là avec nous, jeune du Forum Jeunesse, toujours là pour interagir. Allô,
ah,
Fafa.
Oui. Salut, Oumi, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, je suis super bien. Oui. 2021 commence bien, yes. Cet épisode. Je suis toute excitée d'être avec vous aujourd'hui.
Nous de même, puis on a vraiment hâte de voir ce que tu vas dire. T'as toujours quelque chose de...
Mais oui, là, ils sont pas prêts, hein?
Donc, on a vraiment hâte de t'entendre.
Et on voudrait aussi remercier, en fait, tous les invités de faire partie de notre émission et parler du profilage racial. Et comme dirait Iba, une autre co-animatrice de notre podcast, une des bénévoles de la clinique, le profilage racial, c'est le sujet de l'heure, mais la réalité de toujours. Et c'est pour ça qu'on va parler des effets du profilage racial. Plus spécifiquement, on veut parler dans l'émission d'aujourd'hui à quoi ça ressemble concrètement et on va donner des exemples comment vous devez interagir avec les policiers et différentes mises en situation.
Exactement. Puis comme on le sait tous, avec le confinement, corona, tout ce qui est arrivé pendant le temps des fêtes, c'est tellement surchargé. On a eu un couvre-feu. Tout le monde doit rentrer chez eux à 8 heures. Les magasins non essentiels ont fermé, etc.
Et malheureusement, donc, le profilage racial a continué.
Exactement. Donc, récemment, Fafa, je ne sais pas si tu as vu dans les réseaux sociaux, on a eu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux à propos du manteau rouge, le fameux manteau rouge. Donc, en fait, je vais t'expliquer vite fait pour aussi situer les auditeurs un peu. Dans le fond, ce sont des policiers qui ont été filmés en train de détenir un jeune hispanophone. Le jeune hispanophone s'appelle Andy. Puis, dans le fond, c'est parce qu'il portait supposément un manteau rouge qui avait été volé. Donc là, ils recherchaient un suspect, on va dire. Puis moi, je veux savoir, Fafa, qu'est-ce que t'en penses? Genre, tu sais, quand t'as vu la vidéo, là, qu'est-ce que t'as pensé?
J'étais choquée. J'étais choquée. Et tu sais, après ça, je suis allée dans ma garde-robe pour voir si j'ai pas de manteau rouge, moi aussi. Mais parce que c'est vraiment choquant qu'on t'arrête, il a aucune raison de t'arrêter. Le dernier recours, c'est comme ton manteau, carrément, ton manteau. Et moi, je pense que c'est souvent, il y a encore des gens qui remettent en cause les jeunes qui parlent, qui sont victimes de profilage racial, qui sont arrêtés pour sans raison. Tu sais, il y a tout le temps des gens qui remettent cela en question. Moi, je pense que c'est un exemple pour dire que tellement que vous n'avez plus de raison de nous arrêter. Vous vous emprisonnez nos vêtements. Bientôt, on va pas. Qu'est-ce qu'on va faire hein? Qu'est-ce qu'on devra faire pour qu'on arrête d'être victime de ce qui se passe? Alors, moi, je pense que c'est pour prouver à tout le monde que mais, le profilage racial, comme tu dis, c'est un sujet de tous les temps et qu'il faut vraiment en parler. Il faut vraiment agir parce que si maintenant, aujourd'hui, c'est nos manteaux, demain, ça sera quoi? Nos chaussures, nos sacs d'école. Tu sais, c'est quoi la suite, en fait? C'est quoi la suite, en fait?
Mm-hmm. Exactement. Donc, en fait, l'incident qui s'est passé, c'était vraiment juste la semaine passée. C'était le 17 janvier. Et c'était en lien avec un vol qui s'était passé le 19 décembre. Donc, un an plus tard, en fait, right? Et le jeune s'est fait interpeller, et pas juste dans la rue, chez lui-même. La police est arrivée dans sa propriété et l'a interpellé sans masque non plus. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'erreurs qui se sont passées pendant cette intervention.
Exact. Puis, tu sais, on peut se demander si ça aurait été une personne blanche. Est-ce que ça aurait été la même chose?
Oui, et surtout si c'était une personne qui connaissait en fait qu'un policier ne peut pas t'arrêter sans qu'il ait son masque en fait. Et c'est là le problème. S'il savait que tu n'as pas ton masque, tu ne peux pas m'arrêter, tu sais. Il faut aussi. Le fait de connaître ses droits aussi, il aurait pu beaucoup plus l'aider à interagir avec la police. Et moi, je trouve ça très bien qu'on filme. Exact. Qu'ils ont filmé ça. Parce qu'imagine-toi qu'il ait dit, moi, on m'a arrêté à cause que j'avais un manteau et il raconte ça à quelqu'un d'autre sans l'avoir filmé.
Exact.
Qui l'aurait cru, non? Sérieusement, personne ne l'aurait cru à part des personnes qui étaient victimes eux-mêmes de ce profilage-là.
Mm-hmm. Puis c'est totalement vrai ce que tu dis là. Puis c'est un cas parmi tant d'autres qui ont juste été filmés, tu vois.
Ouais, totalement, t'as totalement raison. Alors, continue à filmer, moi je dis, c'est une de nos seules armes présentement.
Exact, exact. Puis dans le fond, Fafa, est-ce que toi, j'imagine, tu crois que c'est un incident de profilage racial?
Ouais. Totalement, je crois que c'est un incident de profilage racial. Je crois que le quartier où il était, c'était sûrement à cause du quartier, à cause de voir un jeune hispanophobe avec notre face qui, je pense pas qu'il peut se le payer, je pense pas qu'il peut se l'acheter. Tout ça a trotté dans la tête de la personne sûrement qui l'a arrêté. Alors, je pense pas, c'est juste parce que c'est un manteau qui a été volé, qui a été signalé, exactement rouge pareil avec
notre face, notre tout face le monde aussi. À Montréal. Ah.
Alors. C'est ça, moi je pense vraiment que c'est un cas de profilage racial.
Et même avec comme 3 secondes d'investigation, ils auraient pu voir qu'il l'avait même posté sur son Instagram en 2018, son manteau.
Carrément,
en 2018. Donc c'est juste de la négligence. En
fait. C'est totalement.
Puis justement, au dire de Maître Nada Boumefka, on l'avait reçue comme il n'y a pas longtemps, justement, à l'émission. Puis c'est elle justement qui va représenter Andy avec la collaboration de Maître Fernando aussi, qui travaille au clinique juridique de Saint-Michel. Donc, on a vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler. Puis, tu sais, on va suivre vraiment les procédures de proche parce que c'est un cas de profilage racial. Comme
et oui, je pense qu'on devrait, comme c'est très bien qu'on puisse les représenter. C'est très bien qu'on puisse le représenter et je trouve qu'il faut en faire en fait un exemple pour montrer que ces trucs de profilage racial là, mais ça ne s'arrête pas seulement avec une plainte, ça ne s'arrête pas seulement avec la vidéo qui est postée et que la police nous dit on va faire des enquêtes. Ça, je continue pareil à parler. Ouais, ça ne s'arrête pas. ça ne s'arrête pas avec le fait qu'on porte plainte ou qu'on dise en fait oh on a porté plainte, c'est sur en cours, c'est ça va aller loin j'espère. Mm-hmm.
Et Nada, en fait, Boumefta, l'invitée ici de quelques podcasts, elle a même dit que les policiers, ils n'auraient même pas pu donner une justification immédiate ou de proximité temporelle parce que ça faisait tellement longtemps et c'était même pas proche d'où ce que le vol a été fait. Donc, c'est vraiment encore plus une preuve de profilage et comment ils vont vraiment essayer d'utiliser n'importe quel aspect qu'ils peuvent trouver juste pour bénéficier leur propre biais inconscient qu'ils ont envers les personnes racisées. Donc.
Totalement d'accord, frère. Mm-hmm.
Puis là, comme on l'avait dit tout à l'heure, on a un cas flagrant de profilage racial, mais c'est pas toujours le cas. Le profilage racial, des fois, c'est quelque chose qui est vraiment comme difficile à prouver. Donc, sous peu, on va vous donner quelques exemples de c'est quoi profilage racial, puis comment est-ce que vous pouvez interagir avec un policier si jamais vous voyez qu'il vous a détenu en raison de votre race, couleur, etc.
Exactement. Parce que quelques fois, ça peut ressembler à un incident comme celui du manteau rouge, mais d'autres fois, ça peut agir différemment. Et donc, on va aller dans une petite courte pause et on va revenir avec des mises en situation.
Yes. Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Neolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
On va faire des petites mises en situation. On va parler un peu de le profilage, ça peut ressembler à quoi, des différentes situations. Et on va même parler de l'intersectionnalité.
Exact.
Donc, En ce moment, on va parler d'un cas où c'est une jeune femme noire qui s'est fait arrêter et détourner par la police pendant qu'elle conduisait sa voiture sur le pont Jacques-Cartier. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la police l'a interpellée, même si elle n'avait commis aucune infraction. Ils l'ont demandé pour ses informations et tout. Elle a été détenue. Et la raison pour laquelle elle a été arrêtée, c'est parce qu'elle conduisait apparemment la voiture d'un homme. Donc, en effet, elle allait en fait chercher son père au casino. Et ce cas, en fait, est peculier, pas seulement pour son odeur évidente de profilage racial, mais aussi pour le sexisme. Donc, ça nous amène à un point très important, qui est l'intersectionnalité. En fait, ça, c'est un aspect qu'il faut toujours prendre en considération, surtout quand on analyse des cas comme ça. Ce concept, en fait, explique que les expériences des gens diffèrent dépendant de plusieurs caractéristiques, soit leur sexe, la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle, leur âge. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération parce que les expériences d'une femme noire ne vont pas être la même d'une autre femme blanche. Et dans ce cas, la victime a été ciblée, surtout en fait parce que c'était une femme, mais elle a été aussi perçue comme vulnérable parce qu'elle était une femme noire. Donc, éventuellement, le juge a même dit que l'incident reposait sur un acte de sexisme, mais malheureusement, ce n'est pas toujours facile de faire valider ses sentiments.
Exactement.
Totalement, ouais.
Donc.
Puis souvent, c'est comme, c'est par rapport à des préjugés qu'on a. Je sais que tu vas en parler un peu plus davantage, mais la plupart du temps, tu sais, c'est basé sur des choses. On parlait de biais en conscience. Mm-hmm. Je suis sûre que tu as beaucoup,
c'est quoi, biais
beaucoup
en conscience,
de choses. On en avait parlé les émissions passées,
mais
dans
tu
le fond.
Vois, malheureusement, j'avais des.
Donc,
j'ai
nos biais en conscience, c'est plutôt les stéréotypes qu'on a internalisés, en fait. Donc, un exemple, ça serait le concept du angry black woman.
Mm-hmm.
Oui. On voit. La société nous a en fait appris que les femmes noires sont agressives, ils sont ouais. mal élevées, ils sont
fâchées.
Dès qu'on hausse la voix, c'est comme si on était fâchés puis qu'on cherchait
exactement.
À chercher attention. Genre.
Exactement.
Ah, okay. Et le angry black woman en français, ça serait la femme noire agressive. C'est un concept en fait vraiment qui provient des États-Unis, mais ça se répand partout au monde.
Mm-hmm.
En effet, c'est un mythe et c'est un stéréotype en fait qui implique que les femmes noires sont agressives, ils sont fortes, ils parlent fort, ils sont toujours fâchés et tout.
Mm-hmm.
Et dans ce cas-ci, en plus, lorsque la victime en question exprimait sa frustration, en fait, tu te fais arrêter parce que et tu cries un peu, tu te dis c'est du profilage. Là. Il l'arrête au milieu du pont et conduisait normalement.
Mm-hmm.
Et la police, ils ont utilisé des hyperboles. Elle crie à tue-tête et elle dérange les personnes autour
wow.
d'eux. Puis ils l'ont même écrit dans le rapport de police, ils sont allés en cours puis ils disaient ils dérangeaient à la paix de la ville.
Mm-hmm. Alors que c'était
sur un
normal,
pont.
Sur le pont.
De un, c'est normal, mais de deux, ils sont sur un pont. Il y a juste des voitures.
Des voitures, je sais pas, qui est là-bas.
C'est vraiment un fait qui démontre que mm-hmm. le biais inconscient qui était pris dans les policiers, qu'ils ont même pas réalisé que ce qu'ils disaient faisait pas de sens.
Mm-hmm.
Et donc, malheureusement, elle a dû expérimenter ça. Mais le juge, et on est vraiment content que ça s'est passé.
Merci, monsieur le juge.
Merci, monsieur le juge. Le juge a même dit que crier quand tu te fais arrêter ou quand tu te fais déteindre,
c'est normal.
C'est normal. Oui. Et pas juste que c'est normal, mais c'est que c'est protégé dans la charte pour la liberté d'expression.
Ah, OK.
Et ça, on dirait pas que c'est pertinent, mais c'est une grande chose en réalité. Parce que cette reconnaissance est absolument nécessaire quand on parle de profilage racial.
Exact.
Parce que ces petits changements vont éventuellement changer la façon dont la police ou juste le système juridique voit les personnes racisées.
Mais tu sais, justement, le fait que la cour le reconnaisse, tu sais, ça peut aider un peu à lutter contre ce genre de préjugés. Puis la prochaine fois qu'un policier, tu sais, va faire ce genre de comportement, ben, il va se poser la question deux fois avant de, tu sais, dire des propos un peu, tu comprends.
Exactement.
Et à tue-tête et tu
exactement.
Déranges
donc,
la ville.
Donc, comme tu as dit, merci, monsieur le juge.
Oui, mais vraiment, oui. Et merci aussi à la femme d'avoir porté plainte parce que beaucoup de personnes auraient été. Tu aurais dit, laisse passer, c'est bon, c'est correct.
Mm-hmm. Exactement. Donc, ouais. Surtout, en la reconnaissance d'un cri perturbateur pour un cri provoqué, ça aide à enlever le stigma contre surtout ce principe du angry black woman. Que on enlève au moins certaines parties de ce stéréotype et finalement, en espérant que il va plus exister dans.
Exact. Dans si ça aurait été une femme blanche qui serait en train de crier, je pense pas qu'il
aurait dit la madame était stressée.
Elle aurait même pas été arrêtée.
Exactement. Ouais. Il y aurait pas eu tout ça là. Donc c'est vraiment important, je crois bien. Et donc ben merci Ali pour cette mise en situation fort intéressante. Ouais. Donc sur ce, on va aller interviewer Monsieur Marc Tanguay. Donc à tout de suite.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Neolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Monsieur Marc Tanguay?
Oui, bonjour.
Bonjour, donc je m'appelle Oumi, je suis animatrice à l'émission « Touche pas à mes droits », c'est le podcast juridique qui parle de profilage racial.
Oui.
Oui, donc je vais vous introduire un peu à nos auditeurs. Donc, vous êtes député du Parti libéral du Québec, de la circonscription de La Fontaine, soit Rivière-des-Prairies. Et aussi, depuis le 5 septembre 2019, vous êtes le nouveau leader parlementaire de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale du Québec.
Ça a changé, par contre.
Ah, j'ai
rendu mon collègue de Pontiac, André Fortin, qui est leader. Mm-hmm. Et j'ai conservé la fonction de porte-parole, notamment en matière de justice. Et très heureux, donc, de participer à votre podcast.
Parfait. Le plaisir est grandement partagé, surtout que vous êtes ancien diplômé de l'Université de Montréal, en droit, en plus.
Oui!
On est tous des étudiants en droit ici, donc on est vraiment excités de vous recevoir.
C'est bon. Ben c'est un bonheur partagé, croyez-moi.
Parfait. Donc, on va débuter par une première question. Et on voulait vous demander, dans le fond, on parlait plutôt de la fameuse vidéo du manteau rouge qui circule ces temps-ci dans les réseaux sociaux. Donc, nous, on voulait juste savoir c'est quoi votre point de vue en tant que juriste sur la vidéo. Puis, tu sais, c'est quoi vos... vos opinions là-dessus?
Bon, tout à fait. Mais écoutez, moi, ma première réaction, ça a été fâchant. Honnêtement, j'étais fâché de voir ça. Vous savez, depuis maintenant plusieurs années, avec les outils que l'on a, là, les iPhones, les moyens de communication, on est capable, dans le fond, de documenter ce qui a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, ce qui était peut-être reçu comme étant, ah, bon, dans le fond, c'est pas réellement profilage racial, là, ça existe pas vraiment. Mais aujourd'hui, on voit, évidemment, et ce qui fait naître le mouvement Black Lives Matter, on voit que c'est les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, que nous pouvons utiliser ces images comme outils pour changer la société, changer les pratiques, changer ce que l'on doit qualifier au Québec. Et ça, c'était l'image, le résultat, une des résultantes du racisme systémique. Le racisme systémique, on voit que ça prend différentes formes et le profilage racial en est une. Moi, je suis pas hispanophone, je suis blanc, je suis pas autochtone, je suis pas noir. Moi, j'ai comme l'intime conviction que si c'est moi qui avais eu le manteau rouge, la police serait pas venue me voir.
Mm-hmm.
Et ça, cette intime conviction-là, faut la partager, faut partager notre désir de changer les choses. Et moi, on le voit dans la vidéo, on le voit très bien. Et la personne qui a été interpellée, je pense que c'est Monsieur Bassora, je pense que je prononce bien son nom.
Oui.
Monsieur a très bien réagi, a été très posé, a collaboré, a été très posé, très raisonnable, lui posait des questions et on voit que la police l'a interpellé sans dire de raison. Et la seule raison, une fois que le policier se risque de dire la raison, ben savez-vous quoi? Il y a un mois, un manteau similaire a été volé. Alors, où est l'urgence? Où est le lien juridique d'interpeller une personne? Pourquoi? Parce que c'est un hispanophone? Non, c'est du profilage racial. Ça n'a pas lieu au Québec, au Canada, puis ça, il faut le dénoncer. Puis force est de constater qu'on a encore beaucoup de travail à faire.
Exact. Et on est absolument d'accord avec vous sur ce point-là. Justement, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à ça. On veut aider les auditeurs à comprendre comment est-ce qu'ils doivent réagir si jamais ils sont confrontés à ce genre de situation. Puis c'est vraiment important, tout ce que vous venez juste de dire. Donc, moi, je voulais juste vous demander à un niveau un peu plus personnel, en tant que juriste, en tant que député, c'est quoi les changements concrets qui devraient être apportés à notre système de justice canadien, québécois, afin de lutter contre le profilage racial sur un plan un peu plus global?
Oui, un plan un peu plus global et je tiens à saluer, à souligner, je pense que vous aurez l'occasion de parler avec ma collègue Jennifer McBrown.
Exactement.
Nous, de l'équipe libérale, les députés de Westmount-Saint-Louis, Jennifer, elle est la porte-parole de l'opposition officielle en matière de diversité et d'inclusion. Mm-hmm. Alors, Jennifer est la personne qui, de notre côté, a la responsabilité de mettre par écrit notre réflexion, nos propositions et comment nos solutions. Et Jennifer, je salue son travail, je pense que j'aurai l'occasion de lui parler. Ce qui se passe également dans Saint-Michel, le député de Saint-Michel, c'est le député de Viau, c'est Franz Benjamin, qui est président de notre caucus, qui est tout à fait au courant, qui est sur le terrain et voit comment que ça fonctionne, comment que jusqu'à quel point nous devons changer les choses. Alors, je tiens aussi à saluer mon collègue Franz Benjamin, qui est très, très, très actif. Maintenant, une fois que je lui dis ça, comment on peut changer les choses? Ben, la première des choses, là, je pense que, ce n'est pas qu'un débat juridique. Je pense que nous ne pouvons pas, dans une société, changer ce que l'on ne peut pas nommer. Il y a, au Québec, du racisme systémique. Mm-hmm. Il va falloir commencer à le dire. Et on n'est pas en train de dire les Québécois sont racistes. C'est pas ça, là. Et quand j'entends François Legault laisser entendre que c'est la raison principale pour laquelle il ne veut pas reconnaître du racisme systémique, que ça pourrait être perçu comme cette insulte non justifiée-là, ben non, c'est pas ça. Le racisme systémique, ça existe. Ça a été défini par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Alors, sur un aspect, pour répondre à votre question, un peu plus juridique, un peu plus légal, je pense qu'il faut nommer les choses. Et nommer les choses, ça ne veut pas dire que tous les individus sont racistes. Non, ça veut dire qu'il y a, dans nos politiques, dans nos pratiques, des approches qui reproduisent les inégalités, les discriminations, les exclusions. Et ça, il faut le reconnaître. Alors, en ce sens-là, d'un point de vue plus juridique, il faut reconnaître qu'il y a du racisme systémique. Il faut reconnaître qu'au Québec, c'est pas parce qu'on dit ça qu'on est en train de dire qu'on est plus raciste que n'importe quelle autre société dans le monde. Non. C'est uniquement de dire, ben, collectivement, on veut mieux faire. Puis ce que l'on a vu dans le reportage du 19 janvier dernier, l'homme hispanophone qui se fait interpeller sans aucune raison, c'est du profilage racial. Ça existe encore en 2021 après ce qu'on a vu comme mouvement Black Lives Matter en 2020. Ça n'a pas sa place pour nommer les choses. De façon un peu plus tangible, je suis heureux de constater que M. Bassura est allé porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, que la Commission des droits de la personne va se saisir du dossier. Il est important que toute personne... Donc, à votre message, oui, la façon de réagir, faut pas lutter. Faut pas sur le coup dire c'est une injustice, je m'oppose à la force policière. Il a bien réagi. Il a collaboré, il a coopéré. Mais je suis certain qu'il avait déjà son idée de faite en disant la chose ne restera pas comme ça. La personne qui filmait, elle a le droit de filmer l'intervention policière et a conservé cette preuve-là qui va démontrer le profilage racial. En ce sens-là, il faut être capable juridiquement de soulever, de documenter tous ces cas-là, notamment à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui peut porter plainte, peut introduire des recours judiciaires, peut faire condamner. Puis savez-vous quoi? Quand le corps policier en question aura eu plusieurs condamnations, ben les gens vont peut-être davantage en prendre conscience. Je sais qu'il y a eu un important rapport en août 2019 qui a démontré par A plus B le fameux rapport Harmonie Assaoui et Mulong qui a démontré par A plus B qu'il y a au sein du SPVM du profilage racial. On n'est pas en train de dire qu'il y a des policiers, que les policiers sont racistes. Non, dans la façon de faire, il y a du profilage racial. Il faut nommer le problème. Il faut faire en sorte qu'il y ait une véritable politique contre l'interpellation non justifiée dans le SPVM et faire en sorte que les gens soient au courant de leurs droits et dénoncent. Il faut dénoncer. Et il faut que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse documente ça, défendre les droits devant les tribunaux, parce que condamner des personnes Le policier en question, je prends pas le cas du 19 janvier, mais dans un cas théorique, parce que je veux pas m'immiscer dans un recours judiciaire, mais dans un cas où un policier ou une policière a fait du profilage racial, qu'elle soit condamnée, qu'elle a une responsabilité personnelle et que son employeur ait une responsabilité également. Et c'est comme ça qu'on va être capable de changer les mentalités.
Exactement, vous avez parfaitement raison. Puis ça revient à l'idée que c'est pas du racisme systématique, mais du racisme systémique dans un premier temps. Et dans un second temps, nous, on est vraiment contents puisque justement Monsieur Andy, il va être représenté par les avocats de la clinique juridique de Saint-Michel. Donc on a vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que l'instance va se dérouler, comment est-ce que le juge va combiner tous ces éléments-là qu'on a vus pour justement déceler qu'il y a eu effectivement du profilage racial. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, d'ailleurs très, très pertinente. Ça a apporté beaucoup à la discussion d'aujourd'hui. On vous remercie grandement.
Bien, moi, je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour ce que vous faites œuvre utile de façon pertinente et intelligente. Mm-hmm. Et avec les réseaux sociaux, c'est la façon aussi d'aller toucher les gens. Et sachez que je serai toujours disponible à vous parler. Ce fut un immense plaisir. J'ai trouvé ça court. Ayons plus de temps la prochaine fois.
Bien sûr, bien sûr. Après tout ça, ce sera avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Bye bye, merci. Merci.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Donc, de retour de la pause, j'espère que vous avez pris un bon café et que vous êtes toutes détendues, parce que je vous arrive avec une mise en situation. Dans le fond, moi, je voulais parler un peu d'un aspect qu'on a traité un peu les émissions passées, mais comme sur la surface. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important puis d'essentiel à comprendre, c'est la détention. Puis dans la détention, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quand un policier va venir puis va limiter comme ta liberté par soit des moyens physiques, c'est-à-dire par exemple, il va te tirer ou il va te dire, tu sais, il va te menotter ou je sais pas trop, ou par des moyens psychologiques. C'est genre toi, en tant que personne, tu sens que tu peux pas, tu sais, bouger de là. Donc, tu sais, si vous êtes comme je disais, si vous êtes considéré comme étant détenu, vous pouvez juste pas quitter les lieux. Donc, pour qu'un policier vienne limiter ce droit-là à votre liberté, il faut qu'il ait des motifs raisonnables pour le faire, des raisons qui sont valables. Pour vous aider à comprendre, je vais vous donner un petit exemple, OK? Donc, ce sont un groupe de jeunes. Par exemple, il y a un Asiatique, trois personnes de couleur noire. C'est important de le mentionner parce que vous allez comprendre un peu plus pourquoi. Tu sais, on est en train de chiller dans une cour arrière, tout va bien, on fait rien de mal, on est juste en train de discuter. Et tout d'un coup, la police va débarquer. La police va débarquer, elle va, sans mandat ni rien, elle va venir, elle va commencer à nous poser des questions. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites ici? Donnez-moi des pièces d'identité, je veux vous identifier, vous êtes qui? Alors que vous n'avez absolument rien fait de mal. Dans ce cas-là, on peut se poser la question... C'était quoi leur vraie motivation pour venir? Tu sais, comme, qu'est-ce qui les a motivés à venir vous voir? Puis c'est là dont on parle un peu, Fernando nous disait ça dans les formations, est-ce qu'on décèle une odeur de profilage racial? Donc, tu sais, ce serait comme, est-ce qu'une personne blanche dans cette situation-là aurait vécu la même chose? Tu sais, en l'occurrence, non, là, un policier ne va pas débarquer chez... des personnes blanches comme ça qui sont en train de chiller pour rien. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si un policier n'a pas de raison valable de venir vous arrêter, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle une détention qui est arbitraire. Puis la détention arbitraire, c'est quelque chose qui est protégé par la charte. Donc, tu sais, on ne peut pas juste venir comme ça, vous l'enlever. Il faut qu'il y ait des raisons valables encore une fois.
Donc mais ici, ils ont juste débarqué chez eux qui avaient... Ils n'avaient aucune raison.
Il n'y avait absolument aucune raison. Aucune raison.
Okay.
Mais, pas de mandat, pas de consentement.
Mais si le policier il débarque, puis tu sais, avant de lui donner tes papiers, tu dis c'est quoi la raison, et il ne te donne pas la raison, est-ce que tu peux ne pas lui donner tes papiers?
Bonne question. En fait, le truc, c'est que nous, qu'est-ce qu'on conseille, c'est toujours de t'identifier. Les autres trucs, tu peux toujours garder le silence. Quand ils te demandent qu'est-ce que tu fais ici, quand ils te posent d'autres questions, tu peux omettre de répondre. Tu as le droit de garder le silence. Mais si ils te demandent de t'identifier, identifie-toi toujours, c'est toujours mieux.
Et juste correct? À rappeler que ça, c'est de l'information juridique et non du conseil.
Donc, utilisez-le à bon escient. Donc, ce que je disais tout à l'heure, comme je l'ai dit, ben, c'est clair que ce qui va être un peu plus, on va dire, tricky, je n'ai pas utilisé le mot, mais ce qui va être un peu plus délicat dans le cas de personnes qui sont issues des minorités ethniques, c'est qu'on va avoir tendance à croire qu'on est détenu plus facilement, par exemple, que personne blanche. Si un policier, moi, si par exemple, je suis une personne noire, right? Si un policier vient puis me dit, Oumi, qu'est-ce que tu fais là? Montre-moi tes papiers. Je vais sentir que je ne peux pas quitter ici. Pourquoi? De parce que les relations que les minorités ont avec les policiers, on sait que ça peut mal tourner très, très vite. Donc, une personne de, tu sais, issue des minorités va souvent avoir tendance à croire qu'il est détenu plus facilement. Tu comprends? Donc, c'est un peu là la subtilité du profilage racial. Puis, à plus forte raison, quand il s'agit d'un jeune issu d'un groupe racialisé.
C'est la même chose que le cas juste avant sur le pont. C'est l'intersectionnalité. Right?
Exact.
On a un enfant racisé, mm-hmm. ou on aurait une femme autochtone ou un homme noir. Ils sont beaucoup plus focalisés par la police et il y a une relation de pouvoir un peu plus disproportionnée comparée à un homme blanc. Ou...
Mm-hmm. Exactement.
Ouais.
Puis, même si le cas que je viens de vous donner, c'est un cas réel qui est vraiment arrivé à un homme qui s'appelle Tom Lee et ça s'est passé à Toronto, en fait. Là, le truc, c'est que quand les policiers ont intercepté comme le groupe de jeunes, ils ont trouvé sur Tom Lee de la drogue, une arme et de l'argent. Là, maintenant, vous allez me dire, ben, t'sais, les policiers avaient raison d'agir de la sorte parce que, justement, ils ont trouvé ces preuves-là sur Tom Lee. Mais en fait, je vous dirais que non. Pourquoi? Parce qu'on a tellement violé les droits de Tom Lee dans toute cette affaire-là. On l'a privé de liberté. C'est tellement comme intéressant puis tellement important de savoir ça parce que ça nous permet de comprendre que le policier n'a pas toujours comme, tu sais, free will. Genre, il n'a pas, tu sais,
toute la liberté, genre.
Exactement, de faire ce qu'il veut. Parce que sinon, il n'y a personne qui aurait, dans le fond, confiance en la justice. Il n'y a personne qui va suivre les lois, etc. Donc, ça nous permet d'une certaine façon de garder une bonne relation avec la justice. Puis, tu sais, de voir qu'on peut faire confiance en notre système de justice. Donc, moi, c'est ça que je voulais comme plus un peu aborder comme contribution. Est-ce que vous avez des questions?
Moi, pour l'instant, depuis que tu m'as expliqué ce qui s'est passé, j'ai pas beaucoup de questions. Et tu sais, je me renseigne beaucoup pour savoir que si un policier veut me voir, j'ai tout à fait le droit de demander la raison pour laquelle il m'arrête. Et tu sais, si l'information ne me satisfait pas, je peux tout le temps aller me renseigner.
Exact.
À la clinique juridique de Saint-Michel.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Chers auditeurs, vous êtes de retour à votre podcast préféré, Touche pas à mes droits. Alors aujourd'hui, nous sommes avec la députée Madame Jennifer Macaron, députée de la circonscription de Westmount Saint-Louis à l'Assemblée nationale sous le titre du Parti libéral. Elle est aussi la première élue à l'Assemblée nationale à détenir le prix de Critique for LGBTQ et plus. Alors bonjour Madame Jennifer.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, merci, vous-même.
Merci. Alors je vous laisse avec mon collègue qui va vous poser plus de questions.
Parfait, merci.
Donc, Jennifer,
oui.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation de jaser avec vous ce soir.
Le plaisir est avec nous aussi. Juste pour débuter, on voulait vous poser quelques questions, en fait, sur vos rôles en tant que critique for the LGBT ou comme votre rôle en tant que député dans la circonscription de Westmount en ce moment.
Westmount-Saint-Louis, très important. Oui,
Westmount-Saint-Louis, exactement.
Oui.
Donc, oui, juste pour avoir plus de détails sur votre rôle en tant que critic for the LGBT et...
Premièrement, je suis très fière d'être la députée de Westmount-Saint-Louis. C'est une circonscription qui est très diversifiée. On a vraiment de tout parce que, oui, on a Westmount, mais je couvre aussi tout le centre-ville de Montréal. Alors, c'est quand même un comté qui représente les personnes qui sont les plus aisées dans la province du Québec, ainsi que nous avons le plus haut niveau des itinérants dans la province, en plus. Fait qu'on a aussi les plus pauvres. C'est l'essor de l'économie pour la province aussi. Alors, c'est très intéressant. Nous avons des nombreuses universités, cégep, écoles. Il nous manque des écoles publiques, par contre, mais je dirais qu'on a un peu de tout. La seule chose qui nous manque à Westmont-Saint-Louis, c'est l'agriculture, puis peut-être l'industrie de la pêche. Mais à part de ça, c'est très divertissant. Puis côté des dossiers dont je porte pour l'opposition officielle, je suis très fière aussi d'avoir les dossiers de diversité-inclusion. Diversité-inclusion qui, évidemment, là, on peut parler du racisme. Dans mon titre aussi, je porte les dossiers pour la représentante pour la communauté des personnes autistes handicapées. Ainsi que LGBT et la voix de cette communauté. Alors, je dirais que c'est tout un peu lié. C'était très important pour moi de porter la voix de ces personnes en particulier. Souvent, on dit que les communautés minoritaires sont marginalisées. Alors, de donner un peu de visibilité à l'Assemblée nationale, je pense que c'est important. Je suis fière que ma chef m'a donné aussi le titre de diversité et inclusion parce que nous savions de plus en plus ça devient un enjeu d'importance. On en parle dans les médias. C'est très important qu'on adresse les difficultés dont nous faisions face comme Québécois et Québécoises. J'interviens à plusieurs niveaux puis avec plusieurs ministères. J'ai déposé mon premier projet de loi l'année passée qui était pour l'abolition des thérapies de conversion qui visait en particulier la communauté LGBTQ2. Je parle en nom de toutes les personnes vulnérables. Je me laisse souvent dans la salon bleue par rapport à la communauté des personnes handicapées, autistes. Auparavant, j'étais aussi la porte-parole en matière de famille. Alors, c'est tous des sujets que je dirais sont très humains. Je pense que c'est une bonne réflexion de qui je suis comme personne. Voilà, je pense que c'est peut-être un petit survol de quelque chose.
Totalement. En parlant de réflexion, pensez-vous que cette position en tant que critique pour les LGBTQ et plus et pour les minorités raciales serait pertinente et nécessaire? Et comment ce rôle ou ces idées serviraient-ils comme instrument pour lutter contre le profilage racial?
En effet, je pense qu'il faut savoir qu'actuellement, quand je suis porte-parole pour la communauté LGBTQ2, mais aussi, comme j'ai mentionné auparavant, en matière de diversité et inclusion, la diversité fait référence dans la définition aux différentes communautés culturelles et religieuses dont est composée la mosaïque québécoise. Alors, je pense que c'est important, comme j'ai mentionné, de la visibilité de la communauté, tant que nous n'avons plus besoin d'avoir cette visibilité. Ça va être très important. Je pense actuellement qu'on voit la création de postes plus à ces enjeux de plus en plus aussi. On peut le voir avec le nouveau bureau de commissaire aux luttes au racisme et aux discriminations systémiques de la ville de Montréal. Puis, je pense aussi que c'est bien parce qu'il faut nommer les choses. Hein. Je pense qu'on est rendu là, il faut nommer les choses, il faut avoir un dialogue, il faut utiliser le vrai terminologie comme le racisme systémique. Alors, d'où l'importance d'avoir une mention de ça dans les titres que nous représentions au niveau du politique provincial. Je pense que c'est clair aussi pour la population de savoir où ils peuvent y aller quand ils ont des préoccupations, quand ils ont des plaintes, quand il y a quelque chose à partager avec leurs représentants. Puis aussi, ça nous donne un peu de pouvoir d'avoir ce dialogue ouvertement à l'Assemblée. C'est pas une question de « oh, c'est qui représente ce dossier? Où est-ce que je devrais y aller? » Je dirais que c'est important. Cela étant dit, je pense que on sait tous que le gouvernement sont allés vers l'avant avec leur comité, le groupe contre le racisme. Ils ont nommé un ministre responsable. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir une personne responsable de la mise en action d'un plan, qu'on pourra en discuter plus long après une autre question, mais je pense que l'autre chose qui va avec ça, si on va créer des tels postes avec des titres qui sont précis, il faut toujours demander c'est quoi le réel pouvoir qui qui vont avoir ces ministres. On ne veut pas avoir un ministre avec un titre uniquement, puis ce serait inutile, puis qu'on ne fait rien. Exemple, quel budget serait attribué à leur ministère? Comment le ministre peut influencer transversalement les autres ministères, par exemple? Il faut avoir quand même des balises, puis une définition des responsabilités du ministre pour avoir un vrai pouvoir, puis répondre aussi à la besoin de la population. Dans le fond, l'Assemblée nationale, puis tous les députés qui sont là, avec les titres, ça devrait être une réflexion de la population, puis de la communauté qui nous sommes aujourd'hui. Mm-hmm.
Et donc, vous avez mentionné, en fait, dans l'Assemblée, comment c'est nécessaire ce genre de... ce type de diversité, comment tout ça c'est nécessaire dans l'Assemblée, puis est-ce que vous croyez que ça serait nécessaire et utile pour contrer le profilage racial, peut-être, soit dans nos lois, peut-être des projets de loi ou des plans d'action pour contrer le racisme systémique, soit une position comme Critic for the LGBTQ2, peut-être plus en lien avec le profilage racial, ça serait utile, ou si ça existe déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, ou peut-être les futurs plans pour contrer le profilage en lien avec le Parti libéral?
En lien avec le Parti libéral. Bon, OK, parce que je suis contente qu'on précise, parce que c'est sûr, comme vous le savez, je ne fais pas partie du gouvernement, alors je ne peux pas parler en leur nom ou de dire que je comprends bien l'alignement, puis eux, où eux, ils veulent y aller. On a tous vu, hein, c'est le dépôt de leur fameux document, les 13 recommandations et les 12 actions. Les 12 actions qui sont quand même une répétition de tout ce qu'on a vu dans les recommandations du comité de bien. Alors, c'est bien que finalement, nous allons poursuivre à rejoindre un peu les attentes et les besoins de la communauté autochtone, par exemple. Mais je dirais qu'avoir un ministre avec un titre, ça fait partie de ce que le gouvernement a proposé. C'est bien, mais cela va fonctionner uniquement, peu importe le titre, seulement. Quand je vous dis ça, je parle aussi de l'image du Parti libéral du Québec, puis ce que nous voulons voir, hein, parce que quand ce fameux comité a été mis en place, la première chose que moi j'ai faite comme membre de l'opposition, c'est j'ai tendu la main. Je dis, je pense que le racisme, surtout le racisme systémique, c'est un enjeu dont tous les Québécois et Québécoises sont préoccupés. Alors, nous devrons travailler d'une façon transpartisane, ensemble, main à main. Alors, j'aimerais contribuer à ce comité. Malheureusement, ils ont refusé. J'avoue que j'étais déçue. J'étais déçue parce que je pense que, comme j'ai mentionné, c'est un sujet qui nous interpelle, hein, puis il faut travailler en concertation. Donc, ça ne va jamais fonctionner s'il y a un manque de transparence. Puis je vois ça un peu de cette façon. Ça, c'est quelque chose que nous privilégions au sein de ma formation politique. Je pense que c'est important d'avoir une vraie consultation et de travailler en amont avec les communautés qui sont concernées. Actuellement, ce que le comité a fait en déposant leur rapport, c'est à l'écart des communautés. Nous avons soumis quand même une liste de groupes à rencontrer et plusieurs de ceux-ci, parmi les plus importants, n'ont pas été rencontrés. Alors, je pense que ça enlève un peu la valeur. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous de travailler ensemble parce que peu importe ce que moi je propose, que ce soit pour ma formation politique ou même mes idées personnelles, il faut que ça parte de vous. Hein. C'est vous, c'est les gens sur le terrain, c'est les gens qui sont concernés. Ça prend les jeunes, ça prend la mobilisation de la communauté. C'est ça qui est important.
Exact. Puis c'est justement ça qu'on cherche à faire, tu sais, avec le podcast, parler vraiment, tu sais, de ces problématiques sociaux-là. Et j'avais une toute dernière question, un peu plus personnelle pour vous. C'est quoi le projet, tu sais, concernant soit le racisme ou le profilage racial dont vous êtes le plus genre fier?
Un projet dont je suis le plus fière.
Oui, genre un projet, tu sais, concernant la diversité, concernant par exemple la communauté noire, tu sais, quelque chose que vous avez fait au sein de cette communauté-là dont vous êtes le plus fière et dont vous pensez qu'il y a eu le plus d'impact?
Ben, moi, je dirais que j'ai mentionné que j'ai tendu la main au gouvernement, hein, pour travailler ensemble avec eux par rapport à la COVID. Malheureusement, car eux, ils ont refusé ce que nous avons fait comme parti politique, le Parti libéral. On a dit qu'on va faire nos propres consultations. Alors, je suis fière de ça parce que de travailler en collaboration avec avec les communautés qui sont concernées, les minorités visibles, toutes les communautés religieuses, par exemple. Je pense que c'est très important. Alors, j'étais fière de ceci parce qu'on a fait nos propres consultations. Alors, j'ai pu rencontrer des différents groupes, des organismes, des leaders des communautés culturelles et religieuses. Par exemple, c'est sûr, vous les connaissez, mais Maison d'Haïti, Alain Nestor, Woodstock, la Ligue des Noirs, la Ligue des Droits et Libertés, les professeurs Harmonie, Assoui et Moulonie, the Quebec Board of Black Educators, Black Community Forum, Fabriceville, Balarama Wholeness, Dr. Myrna Lashy, Fanny Lafontaine, et j'en passe.
C'est d'ailleurs plusieurs invités qu'on a eu l'occasion d'avoir.
C'est enrichissant d'apprendre de eux puis de prendre leurs recommandations. Puis quand on parle du profilage racial, écoute, on a eu des heures puis des heures des gens qui sont des leaders, qui sont extraordinaires dans la façon qu'ils s'expriment. Si vous me permettez, je veux citer Dr. Myrna Lashley, mais ce qu'elle m'a dit, évidemment c'était en anglais, mais elle a dit de ne pas reconnaître le racisme systémique, c'est comme si vous avez toujours votre genou sur mon cou. Ouf! C'est fort comme image. Mm-hmm. J'ai des frissons juste en parlant encore. Fait que on a des choses à faire. Par exemple, quand on a parlé avec Fadi Daher, le chef de police de Longueuil, il nous a fait quand même beaucoup de recommandations comme de mettre en place une formation obligatoire contre la discrimination, le racisme, le profilage racial. J'ai entendu ce que le groupe avait mis vers l'avant dans leurs recommandations, mais pour moi, c'est pas assez. Le problème est systémique. Ils ont quand même fait des recommandations qui sont systémiques malgré que le gouvernement ne reconnaisse pas qu'il y a du racisme systémique. Mais je pense que une meilleure formation des policiers, c'est ça que nous avons entendu, puis c'est ça que nous allons déposer avec le consentement des groupes qui nous avons consultés. C'est pour y inclure davantage de cours sur les droits et libertés, qui incluant les notions approfondies sur le racisme. Je pense qu'il faut aller plus loin, voir, s'inspirer un peu de ce qu'on fait dans les autres provinces. C'est qu'on a vu à Toronto, par exemple, les interpellations. Maintenant que c'est obligatoire de tout documenter, on a vu une baisse dramatique. Je pense qu'on peut s'inspirer de eux. Mais on peut pas dire que la police, c'est l'unique solution. C'est impossible. On a beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'on a du travail à faire. Je suis fière de ceci parce que tout ce que nous allons faire comme Parti libéral, les recommandations que nous allons faire vont être basées sur ce que nous avons entendu lors de nos consultations avec les communautés concernées. Puis ça, c'est définitivement, je pense que c'est la façon de travailler. Comme j'ai dit auparavant, il faut que ça parte de vous. Il faut que ça soit vous qui nous alimente, il faut que ça soit vous qui se mobilise, il faut que ça soit vous sur le terrain qui vont nous aider, qui vont nous donner vos idées parce que une députée, une politicienne, c'est une porte-parole. C'est pas ma parole. Mm-hmm. C'est la parole de la communauté concernée dont je suis la représentante.
Mm-hmm. On est vraiment content de voir qu'il y a des gens comme vous, justement, qui militent pour faire entendre la voix des personnes, justement, qui ont pas nécessairement, qui se font pas entendre, en fait. Les minorités qui, dont la voix est un peu coupée. Donc, on vous remercie énormément de tout ce que vous faites et justement d'avoir accepté aujourd'hui de venir nous parler de vos projets et de tout ce que vous faites. Donc, vraiment, merci.
Mais merci à vous pour l'invitation. Honnêtement, c'était très agréable. J'accepterai n'importe quand une invitation pour revenir pour discuter plus longtemps et plus en profondeur le sujet parce que ça mérite notre attention.
Bien sûr. Merci beaucoup.
Merci.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Pour conclure, c'est la fin du podcast. On vient d'avoir deux invités super intéressants, deux députés du Parti libéral. Mm-hmm. On a parlé des projets de loi, des
recommandations
pour lutter contre le profilage.
Exact.
Exactement.
Des exemples.
Des exemples, exactement. Nos mises en situation super importantes. toujours se rappeler que le profilage peut ressembler à différentes choses, peut arriver à tout le monde.
Exact.
Et donc, c'était notre 8e émission du projet Touche pas à mes droits en collaboration avec la Ville de Montréal, Forum Jeunesse Saint-Michel de Néolabs, ainsi que les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Exact. Puis n'oubliez pas, si jamais vous êtes victime de profilage de
racial.
Je perds mes mots là. De profilage racial, toujours venez, faites appel à des cliniques juridiques comme les cliniques juridiques de Saint-Michel.
Évidemment.
Puis consultez un avocat, guys. C'est toujours très, très important.
Et comme toujours, vous pouvez écouter notre podcast sur le site internet de la clinique à csjsm.ca/podcast ou sur Spotify également. Donc, soyez à l'affût de notre prochaine émission et on se rejoint pour un prochain épisode pour parler du profilage racial. Merci.
À très bientôt. Bye-bye.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Néolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
Hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet. Il a mis son chandail du groupe. Il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe. Il a acheté son billet. Et il y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. En septembre, le passeport vaccinal sera exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Êtes-vous locataire à Montréal? Avez-vous des questions sur vos droits? Votre comité logement peut vous aider. Pour trouver le comité logement pour votre quartier ou pour plus de ressources, visitez le www.rclalq.qc.ca.
following is a previously broadcast program.
Airing first on Asheville FM, WSFM LP 103.3 in Asheville, North Carolina, this is The Final Straw, a weekly anarchist and anti-authoritarian broadcast and podcast emanating out of occupied Jalagi land in southern Appalachia. We bring you voices from struggles for liberation from all around the world. Welcome.
Today, I'm excited to be joined by Jules Gleason, one of the co-editors and a contributor to the new book, Transgender Marxism, published by Pluto Press in May of this year, 2021, along with another contributor to the book, Michelle O'Brien. Jules Joanne Gleason is a writer, comedian, and historian. She has published essays in outlets including Viewpoint Magazine, Invert Journal, and Vice, and performed internationally at a wide range of communist and queer cultural events. M.E. O'Brien writes at the intersection of communist theory, trans liberation, LGBTQ social movement studies, and feminism. Michelle is a co-editor of Pinko, and her writing has appeared in Social Movement Studies, Work, Employment in Society, Commune, Homintern, Endnotes, and Invert. Transgender Marxism was published in May 2021 by Pluto Press. It's a book that brings together transgender studies and Marxist theory, exploring trans lives and movements and surviving as trans under capitalism. In the end, the claim of the book is that for trans liberation, capitalism must be abolished. In this interview, we talk about the collective material process of transition, trans visibility, assimilation, and liberation, the history of gay liberation and trans movements,